Entre 1945 et 1982, il y eut de nombreux changements dans la technologie utilisée dans le ciel. La technologie a avancé et avec l'avancement de la technologie est venu l'avancement des avions de combat. Je vais regarder trois des combattants les plus populaires au cours de cette période. Les combattants MiG, MiG-21 et MiG-29. Le MiG-21 était un chasseur russe utilisé principalement au Moyen-Orient pendant la guerre froide pour défendre contre les attaques et pour attaquer, parce qu'il avait bien équipé avec des ressources qui devront être nécessaires pour défendre et attaquer. Je vais parler plus à propos de ça plus tard. Ils ont commencé à concevoir ces chasseurs en 1939. Il est important de garder cette à l'esprit de penser à la distance du chasseur à partir de comprendre de quel point il était avancé pour l'époque. Il était si populaire parce qu'il a été associé à une technologie plus avancée comme leurs armes et leurs moteurs. Cela aussi va être expliqué plus tard et je parlerai de la façon dont tout cela affecte l'utilisation globale et la popularité du combattant. Ces avions étaient des avions plus célèbres à ce temps parce qu'ils avaient des plus bonnes modifications et technologies pour le temps, étaient une des plus bonnes chasseurs pour la défense et pour l'attaque. Ça va être expliqué dans plus de détails dans quelques minutes. Les premiers avions MiG étaient des chasseurs à hélice produits de nombreux modèles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le MiG-9 a volé la première fois en 1946. N'a fait guère que l'appliquer la proportion à récréation d'une soleure à moteur piston, qui veut dire que ça donne la proportion à avion pour qu'il puisse voler. Mais le deuxième, le MiG-15, conduit avec des ailes en flèche d'arrivée des recherches allemandes en temps de guerre et proportion pour un copie d'un moteur Rolls-Royce, est devenu l'un des meilleurs des premiers chasseurs à récréation. Cela est rompu par le meilleur en raison d'innovations mises en place. Ces types de moteurs ne généraient souvent pas beaucoup de puissance et avaient tendance à passer au-dessus de la tête, faisant s'écraser l'avion. Mais ils ont proposé un type différent de refroidissement du moteur. Ce système de refroidissement remplit trois fonctions principales. Première, il élimine l'excès de chaleur du moteur. Deuxièmement, il maintient la température du fonctionnement du moteur là où il fonctionne le plus efficacement. Et enfin, il amène le moteur à bonne température de fonctionner le plus rapide possible. Comment ça fonctionne est le piston est refroidi par l'huile circulant à travers un canal incorporé dans le piston. Une ou plus bouches de perforation, l'huile introduisant de l'huile dans le canal de refroidissement à travers de ouvres d'entrée dans la partie inférieure du piston. L'huile de refroidissement sort du canal de refroidissement par une ou plusieurs trous de vidage. Cette innovation était importante parce que, en avant de ceci, il avait des avions de combat qui avaient le même moteur mais n'avaient pas de technologie pour que le moteur réchauffe pas trop et cause un feu. Prends la W-16 pour exemple. Cet avion n'était cependant pas le meilleur. Il n'avait pas vraiment répondu à ses attentes en raison de problèmes de moteur. L'un des problèmes les plus courants du moteur qu'il a dévoré trop chaud et avait tendance à surchauffer. Cet avion a également eu des problèmes de maintenance. La courance était déjà censée réussir devrait être bien supérieure à la AW-16. En 1933, l'Armstrong Whitworth a dessiné le moteur du prototype original, lui donnant un moteur 15 cylindres au lieu de 14. Avec le 14 cylindres, il a eu des complications avec le chauffage du moteur et il a essayé de résoudre avec le 15 cylindres afin qu'il soit Air Force, n'était pas être fait pour un autre Air 9 du même type. Cependant, cela n'a pas fonctionné très bien. Et était continué d'avoir constamment des problèmes de réchauffage des moteurs et était décidé que c'était assez. Il n'avait pas la technologie à utiliser pour améliorer le combattant et pas de problème à venir. Cependant, le combat MiG avait la technologie grâce aux intérieurs de l'avancement de technologie au fil des ans. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles ce petit changement est si important pour la famille de MiG et l'évolution de ses avions. Cet avion monomoteur monoplace était piloté pour la première fois en 1947 et a conduit de nombreux combattants pendant la guerre de Corée. Monoplace veut dire que ça a deux moteurs. Une version améliorée est le MiG-17. Utilisé pour la première fois en 1950, particulière en Manip a été utilisé comme intercepteur défensif par le Nord-Vietnam pendant la guerre Vietnam pendant les années 1960 et comme chasseur bombardeur par l'Égypte et la Syrie dans la guerre Irowab. C'est un sujet très important à aborder car c'était la première fois qu'ils ont essayé d'utiliser ces moteurs dans leur avion. Ils disposaient de toute la technologie nécessaire pour le faire et cela a fait le changement majeur dans la puissance de l'avion, la hauteur ou la plateforme de l'avion et sa mobilité. Tout cela est important pour un combattant qui réussit car il doit être doux pour défendre et combattre les autres combattants. Des moteurs jumeaux ou monoplaces ont fait du MiG-19 utilisé pour la première fois en 1953 le premier chasseur supersonique de fabrication européenne, mais il était dépassé en 1955 par le MiG-21, un intercepteur monomoteur ou un moteur jumelle léger capable de voler deux fois la vitesse du son. Ceci était un important changement parce que maintenant il a eu des avions plus vite qui peuvent combattre avec les autres avions qui étaient à ce temps les reines du ciel. C'est le changement, c'est l'innovation de moteurs différents pour changer la façon dont il est utilisé. Ces avions étaient plus moteurs et pouvaient même abattre des combattants qu'il a hésité à entendre presque imparables. Cette modification de leur moteur en fait un chasseur bien meilleur, plus dangereux et très utilisé. C'est un avion de combat monoplace utilisé pour les intersections et les combats. Ces modifications du moteur en fait un chasseur bien meilleur, plus dangereux et très utilisé. C'était un avion de combat monoplace utilisé pour les intersections et du combat. C'est un grand changement dans l'air car cela signifie qu'en 1955, le Soviet a mis la main sur la plus meilleure technologie, qui est plus meilleure que les autres en 1955. Cela aussi signifie qu'il a trouvé la meilleure technologie pour eux, ce qu'il va maintenant avoir plus de puissance dans le ciel contre les autres combattants et pays. Ce chasseur pesait 9 400 kg avec un avec de 7,15 mètres, une longueur de 15,76 mètres, une hauteur de 4,42 mètres, et elle avait une vitesse de pointe de 2230 km par heure. La taille d'avion était un point qui est volant abordé en raison qu'il fait affecter la capacité du plan à voler des vitesses élevées, la distance de l'avion qui peut parcourir et ou l'efficience du carburant et sa capacité au manœuvre. Si tu considères que ce n'est pas un très grand avion si on compare au F-16 qui est un avion de 68 000 livres, avec un avec de 42 pieds 10 pouces et une hauteur de 8 pieds 8 pouces et une longueur de 63 pieds 9 pouces. Alors si tu considères l'avion à un F-16, ce n'est pas un très grand avion. Pour conclure, il a une très grande commotion de carbonate de vitesse très élevée et peut être manœuvré avec facile. Celui permet également de voler plus haut et d'avoir un étanchier plus élevé, ce qui le rend meilleur que le plus gros avion de son temps. Le MiG-21 avait un turbochargeur donné au chasseur de puissance et eu des capacités de vitesse de 2230 km par heure. Ça c'est important pour ce type d'avion parce qu'il devrait être vite et être vraiment mobile pour le travail qu'il faisait. Il y a besoin d'adapter les autres avions et devront avoir des capacités d'être manœuvrables pour qu'ils puissent être dangereux dans le ciel. Cet avion a ça, qu'il est une grande raison que la popularité qu'il a eue, d'être un des plus bons intercepteurs et combatifs de ce temps. Ils ont été mis en service pour la première fois en 1959. 10 000 de ces moteurs étaient fabriqués et sont toujours dans l'air aujourd'hui. Ça c'est important parce que c'était année de l'or pour les combattants et il est encore en service aujourd'hui, alors ça te dit comment bien avancé il était pendant cette époque, pour qu'il puisse être encore dans l'air aujourd'hui. 60 pays ont utilisé ce chasseur, utilisé principalement par l'armée de l'air soviétique, l'armée de l'air slovène, l'armée de l'air inde, l'armée de l'air création et l'armée de l'air romaine. Ça aussi, nous disons que le combattant était populaire et très parce qu'il est utilisé par beaucoup de pays autour du monde aujourd'hui et dans le passé. Au total, 11 496 d'entre eux étaient fabriqués. Ils comptent environ 2 millions de dollars chacun. Le MiG-21 a commencé à début dans les années 1950 lorsque Mikoyan Okebe a terminé une étude de conception préliminaire pour le prototype dessiné Yi-1 en 1954. Ce projet était très rapidement retrouvé lorsqu'il a déterminé que le moteur pouvant être suit à miner devrait fondre a conduit le deuxième prototype, le Wii-2, ses deux premiers prototypes d'autres présentations des Hawaii Baleine. Le premier prototype avait des High Delta qui l'ont trouvé du servant vraiment de production était le Yi-4. Il a effectué son vol inaugural le 16 juin 1955 et sa première apparition publique lors de l'explosion du génie de l'aviation soviétique à l'aérodrome de Tourchino à Moscou en juillet 1956. En raison de tous ces tests, ces avions étaient très bien construits et étaient un bien construit qui volent encore aujourd'hui. Ces prototypes et tests étaient importants parce que donnaient aux Soviets les avions encore plus dangereux qu'en vent. Avec tous ces modèles, ils peuvent maintenant apporter des modifications en vent qu'ils commencent à produire les lignes de fabricants qui nous sont pas faibles et qui tonnent de problèmes. Ces tests ont permis de s'assurer que les combattants pouvaient accepter ce qu'ils devraient faire et que s'ils devraient finir par, comme j'ai dit, en catastrophe. Cependant, plus d'entre eux étaient abattus qu'ils ont abattus. Ça, c'est important parce que ça dit qu'ils n'étaient pas assez avancés pour les autres avions qui étaient plus avancés, comme les F-15 et les F-16 qui étaient fabriqués plus tard. Cependant, il a encore évolué les combattants à ce jour. Le Bison était comparé pour ses capacités d'abattre un F-16 dont il parlait plus tard. Les professionnels estimant que le Bison pourrait faire abattre d'un combat plus cérébral le F-16, le Bison serait capable de faire grâce à ses armes. Il y a un port de 110 kg et pouvant atteindre des vitesses de 4250 km par heure en de portage de Oveg de 22 kg. Ces deux MOG faisaient partie d'une grande famille de combattants soviétiques, partie les meilleurs jamais pilotés par les Russes. Il y avait de nombreux différents types, mais la dernière dont je vais parler à propos de est le MiG-29. Le MiG-29 était une version plus moderne du MiG-21. Ceci était produit dans les premières étapes de les années 80. Cela s'était fait par la même compagnie, les mêmes individuels et les mêmes ennemis que le 21. Ces combattants avaient des armes plus modernes à un port plus long et les vitesses plus élevées. Il y a une vitesse du point de 2 446 km/h, une autonomie de 1 430 km et un moteur Klimov RD-33 lui permettre d'aller vite aussi longtemps. Ça c'est important pour considérer pour les missions plus distantes du base. Il est armé de deux missiles air-à-air à moyenne portée R-27IR-1 ou R-1, deux R-27IT-1-T-1 et six RVV-AE, six missiles air-air à courte portée R-73E, quatre bombardes guidés KAB-500KR-KAB-500L et un pistole à l'air Interjet JSH 301 de 30 mm. Ça c'est pourquoi l'avion est tellement fameux. Ce chasseur était utilisé pour contrôler les P-15 et les P-16 qu'ils contrôlèrent pendant les années 70 et 80. Ce chiffre était introduit pour la première fois en juillet 1982 et était utilisé pour la première fois le 6 octobre 1977 en vente son introduction officielle. Ça veut dire qu'ils ont testé en vente d'utiliser au lieu de juste utiliser comme les autres ont fait la majorité du temps dans cette époque. Cet avion a été testé plusieurs fois et réussi à chaque fois. Ses combattants étaient bons pour la défense de l'armée de l'air soviétique et étaient presque aussi bons pour l'attaque. Cette famille d'avions était principalement utilisée pour les forces aérotropiques russes, l'armée de l'air Inde, les forces de défense aérienne à aérienne de l'Obeskine, l'armée de l'air de République islamique d'Iran, l'armée de l'air soviétique, l'armée de l'air coréenne et l'armée de l'air romaine. Il était vraiment populaire pour cette habileté comme j'ai déjà l'ai dit. Ils étaient utilisés pour partout arrêter les avions plus puissants. Ça, c'est important parce que ça dit que le niveau de chasseur qu'il était presque ignorable à ce point. C'est l'un des chasseurs soviétiques les meilleurs et les plus produits de tout temps. Ça, c'est parce que c'est l'un des les plus rapides et les plus économes à carbone et signifie qu'elle allait à plus loin, qu'elle possède des meilleures technologies et des armes plus avancées pour cette époque. Tout cela est très important car ça signifie que cet avion peut suprême aérien et lui permettre d'avoir les meilleures chances contre des autres combattants exceptionnels. Les personnes importantes. Adam Mikoyan. Adam était un ingénieur aérostromique russe. Il était créateur du MiG-21 qui est développé dans les autres comme le MiG-29 que j'ai encore dit était dans l'air aujourd'hui. Ça nous disons qu'il avait beaucoup de qualité et d'efforts dans ses avions lorsqu'il était encore dans l'air aujourd'hui. Ces avions est très bon construit parce que le temps que Artem Mikoyan a mis dedans, avec ses autres ingénieurs. Artem est né le 5 août 1905 et mort au Moscou en Russie le 9 décembre 1970. Un fact que j'ai vu très intéressant est qu'il a vu l'avion pour la première fois en 1918 lorsque sa famille s'est réfugiée dans les montagnes lors d'une évasion turque. Un biplane a effectué un atterrissage de roche juste aux côtés de leur chachette, faisant une explosion ébalouée sur la jeune Artem. Entre 1928 et 1930, il a enrôlé dans l'armée de l'extérieur des fonctions militaires de l'infanterie. Plus tard, Mikoyan a été promoté pour étudier à l'Académie militaire France de la DRO, où il a travaillé comme secrétaire du bureau local du Komsomol. En mars 1940, Mikoyan fut nommé constructeur et chef du GAZ 1 avec Jarovich comme constructeur en chef adjoint. Ceci est important parce que c'était le premier projet d'aviation grande pour Artem. Leur premier projet collaboratif, le Tsarevich L200, destiné le MiG-1 en décembre 1940, a été construit selon les dernières technologies dans le plus court laps de temps de juste 4 mois. Le premier modèle a été échafaudé le 25 novembre 1939, tandis que le premier vol d'essai a effectué le 5 avril 1940. À la fin d'octobre, la production du MiG a été commercialisée et en décembre, l'armée soviétique l'a mis en service. Pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, Mikoyan et Gervich ont conçu 15 prototypes. Le chercheur de Mikoyan a été établi 55 records du monde de distance et de l'élévation du vol. L'importance canadienne. C'était à son époque l'un des combattants les plus dangereux et les plus puissants du monde et les Canadiens n'avaient pas l'accès à ça. Le Canada n'a jamais piloté ses chasseurs dans la force aérienne canadienne. Cela signifie que pendant la guerre de cette période, l'Union soviétique et leurs alliés avaient un avantage sur le reste du monde. Cela n'a vraiment jamais aucun effet sur le Canada au court terme, mais au long terme, ce combattant était complètement différent des derniers et complètement a changé la façon dont les avions étaient construits. Par exemple, pendant cette période, ils ont commencé à utiliser les différents moteurs qui sont arrivés à avoir plus de puissance. La Rolls-Royce Merlin était le meilleur moteur et le moteur le plus puissant pendant les guerres mondiales. Mais maintenant qu'ils ont trouvé de nouveaux moteurs avec plus de puissance, ils ont beaucoup plus vite, ceci qui rend instantanément plus dangereux. Comme nous l'avons vu précédemment, une fois qu'un groupe trouve une meilleure façon de construire les combattants plus moteurs, le reste du monde s'ouvrit. Cela affecte donc le Canada. Le Canada est un allié majeur des Américains et les Américains ont utilisé l'innovation des chasseurs soviétiques pour fabriquer les nouveaux chasseurs plus puissants que ceux. Par exemple, les F-15 et les F-16, dont j'ai parlé plus tard, ces combattants que les Américains ont fait pour être plus meilleurs que les derniers et plus puissants du monde pouvant maintenant être utilisés pour le Canada pour attaquer ou surtout défendre s'ils ont besoin. Mais donc, le Canada n'a pas assez d'avions dans leur force aérienne à ce moment parce que beaucoup de raisons financières. L'évolution qu'ils ont faite a eu le plus grand effet sur le Canada, mais un autre effet qu'ils ont eu est qu'ils sont encore dans l'air aujourd'hui et sont utilisés par les Soviétiques. Si l'Afrique le Canada, parce que le Canada est membre de l'OTAN avec le Canada et des autres pays. Cela signifie que nous sommes dans le grand traité de paix si on essaie de nous voler d'appeler avec le Soviet Air Force. Ce groupe est un groupe terroriste anti et un groupe mondial de sécurité pour protéger d'une certaine manière. Maintenant à le deuxième combattant, le F-15. Le F-15 est l'un des chasseurs les plus célèbres et les plus connus jamais produits. Il était tellement populaire parce que c'était tellement puissant avec des armes qui avaient toute la technologie et des modifications qu'ils ont à ce point. Je vais parler plus de pourquoi ces habiletés étaient très bonnes et puissantes pour ce temps plus tard. Ce combattant est un combattant américain et l'un des plus populaires et des plus puissants au monde à jour. Ils sont non seulement puissants pour défendre et attaquer en groupe, mais ils sont un des meilleurs combattants au monde en contre un à un. Tout cela est possible en raison de sa vitesse et sa maniabilité de ses armes. Deux des plus importantes choses dans les chasseurs et combattants. Ce combattant était un central absolu de tous les combattants, non seulement en son temps, mais à jamais. Ce chasseur était piloté par l'USAF, l'armée de l'air américaine, et peut atteindre des vitesses d'un plus de 2 953 km par heure. Ce chasseur est composé de deux turboflanteurs Pratt et Whitney F100, PW100, 220 ou 229 avec post-combustion. Ceci lui donne la possibilité de faire des simulations de ou la vitesse de 2 953 km par heure. Il a un port massif de 5 552 km. D'accord, vous l'obtenez maintenant et pouvez parcourir des longues distances, mais de quel type d'armes a-t-il pour les rendre si généreux? Eh bien, le F-15 Eagle était équipé du canon M61A1, 4 AIM 9 Sidewinder, 4 AMR AAM AIM 120 et 8 AIM 120 AMR AAM. Ces armes combinées avec sa vitesse et font des menaces extrêmes pour tous les avions qui s'approchent et qui commencent une attaque. La plupart des combattants étaient équipés des Metragos Vickers il n'y a pas si longtemps et certains avaient des canons et des missiles, mais celui est un package complet. Il a un peu de tout, ce qui en fait un combattant bien équilibré. La technologie mise dans ce combattant était incroyable. Généralement, lorsqu'il est un combattant avec tous ses armes et avec tous ses modes, il ne peut pas atteindre des performances maximales, mais celui est très différent. Je vous ai déjà dit qu'il a atteint des vitesses deux fois la vitesse du fumée, ou Mach 2, mais il a aussi une plateforme de 65 000 pieds. Ça c'est très important pour les combattants, comme je l'ai déjà dit et expliqué. Il existe deux modèles de chasseurs. L'un est monoplace et l'autre double, mais tout autour, c'est la seule différence majeure entre les deux. Vous pouvez également croire que parce qu'il est rapide et maniable, il n'est probablement pas si lourd ou si gros que cela. Si tu penses ça, tu trompes. Il est un avion de 68 000 livres et un évêque de 42 pieds, 10 pouces, une hauteur de 18 pieds, 8 pouces et une longueur de 63 pieds, 9 pouces. Ça c'est tout important quand tu fais un combattant parce que la taille affecte la mobilité, la plateforme et la vitesse maximale qui est vraiment importante dans ce type d'avion. Mais qui était le cerveau derrière de ce combattant? McDonnell Aircraft a officiellement le concept du F-15 en 1967. Lorsque la société a été sélectionnée pour participer à la deuxième phase de compétition FX de l'US Air Force, connue pour son incroyable accélération et sa maniabilité. Avec une vitesse du point supérieur de Mach 2.5 ou 2 575 km/h, c'était le premier chasseur américain avec suffisamment de poussée de l'accélération verticalement. Tu peux voir plus sur les articles britanniques. Le F-15 transporte un grand nombre de missiles, dont des Sidewinder AIM-9 et les Sparrow AIM-7, le bombarde le petit diamètre 1, la munition attaque directe conjointe, tu peux voir plus sur ça sur GDIAM, et les armes laser GDIAM de Boeing et un canon Gatling interne de 20 mm, tout essentiel pour l'engagement moderne. Le 26 juin 1972, James S. McDonnell, fondement de McDonnell Aircraft, baptiste le F-15 Eagle. Le pilote d'Israël, Herb Burroughs, a lancé le premier F-15 Eagle dans les airs le 27 juillet 1972 à Edwards Air Force Base en Californie. 6 mois plus tard, l'armée de l'air a pour livre à une production à plein régime, qui veut dire qu'il a mis dans l'Air Force américaine. Au début de 1975, à départ de la base aérienne de Grand Forks dans le Dakota du Nord, un F-15A connu sous le nom de Steak Eagle a établi de nombreux records du monde en termes de temps de montée ou vertical climb time. Entre le 16 janvier et le 1er février 1975, le Steak Eagle a abattu 8 records du monde de temps à grimper. Il a atteint une altitude de 98 425 pieds seulement en 3 minutes 27,8 secondes après le réfléchissement du fluide, a décollé à rouler à peu près de 103 000 pieds avant le descendre. Le hangar pilote pour l'armée de l'air Israël ont été les premiers à effondrer le vertical inversement de l'air. Ceci veut dire que cet avion est le plus bon avion du grimper dans le monde. Ça, c'est important d'avoir pour avoir un plus bon placement du bataille dans le ciel. Ils ont abattu plus de 50 combattants syriens à aucune perte. Ça veut dire qu'il a combattu 50 combattants syriens, mais n'a perdu aucun avion. Un ratio de 50 à 0. En service dans le US Air Force, le F-15 Eagle a abattu des chasseurs MiG pendant le conflit de Balkans et la majorité des avions au volet fixé irakien lors de l'opération Desert Storm. Boeing, une des plus grandes compagnies d'avions, a continué à faire l'évolution de le F-15 avec une technologie du point. Il a invaincu dans les combattants RAR sans une victoire aérienne à zéro défi. Ça veut dire un à un, il n'a pas perdu un avion. Là, ça, c'est un ratio de 101 à 0. Ça nous dit que ces combattants sont les plus bons combattants sur la Terre ou dans le ciel, parce que c'est un avion. La production se produit aujourd'hui avec des modèles avancés pour plusieurs clients internationaux ou internationaux. Dans tous les modèles, plus de 1500 F-15 ont été conduits et construits. Ça veut dire que tous les pays veulent qu'il identifie que sa combattant est très populaire et les pays veulent qu'il être contredit à leur pouvoir. Dans les mots moins compliqués pour comprendre, ils juste veulent lui à leur disposal pour qu'il puisse avoir dans leur force aérienne s'il a un TAC, il veut avoir un des plus bons avions dans le monde sur leur côté. Des personnes importantes. Beaucoup de gens importants travaillent sur ce combattant et ont leur piloté. Beaucoup de gens ont piloté et ont fait des choses énormes avec eux. Donc, je vais parler de certains d'entre eux qui ont leur effet sur l'histoire de l'aviation. James McDonnell et compagnie. James McDonnell a été un Américain qui fondait la société qui a fabriqué les Eagle F-15. Son entreprise était un facteur majeur dans l'aviation américaine à cette époque et l'est encore aujourd'hui. Il était une des plus bonnes parce qu'ils ont fait des avions plus avancés que les autres en avant de lui et ils ont donné un avantage à les forces aériennes américaines. James Smith McDonald était né à Denver le 9 avril 1899 et a grandi à Little Rock, Arkansas. Il s'est inscrit au Massachusetts Institute of Technology pour les études supérieures à génie astronomique. Ça nous identifie qu'il est un homme très intelligent. Alors qu'il était encore au MIT, il a continué son effraction au ROTC, a réussi le service physique de l'armée de l'air et réussi une grande partie du travail au sol requis pour les pilotes. En août 1923, McDonald a été nommé sous-lieutenant dans la réserve du service aérien de l'armée à effectuer à Brooksfield au Texas pour l'entraînement en vol. Il a réussi sa diplômée du MIT en 1925, juste 2 années après qu'il était nommé la sous-lieutenant dans la réserve de service aérien l'armée a effectué au Brooksfield, Texas. Le 30 juin 1934, il épouse Marie-Elizabeth Finney. Le 30 juin 1934, il a épousé Elizabeth Finney, dont le père, le docteur John Finney, était fondu au American College du Sieur Jean. McDonald a décimé de Martin en 1938, déterminé à créer sa propre entreprise. Ça, c'est important parce que ça, c'est quand son entreprise, qui était une des plus supérieures entreprises de son époque, était créée. Le 6 juillet 1939, il incorporait le McDonald Aircraft Corp à Saint-Louis. Au cours des 3 prochaines décades, la société devrait la première producteur des chasseurs à récréation et conduit le premier vaisseau spatial à transporter une Américaine en orbite. Ça, c'était grand pour ce temps. Et il était une grande partie de ceci, tous ses diplômes à MIT et ses diplômes à l'Institut aux technologies et études supérieures aéronautiques. Au milieu des années 1960, McDonnell Aircraft Co. était le plus grand employeur du Missouri et, en 1967, elle a étendu ses activités en fusionnant le plus d'emplois de Californie Douglas Aircraft. J'ai juste vu disons ça parce que j'ai pensé que c'était tellement intéressant. Et ça aussi signifie comment grand cette compagnie était pour cette époque. Au cours de sa carrière, James Smith McDonald a reçu de nombreux prix et diplômes honorifiques. Ce prix comprenant le trophée Robert Collier, la médaille John Grisham, la médaille du fondateur de National Academy of Engineers et la paix du service public de NASA. Ça, c'est tellement grand pour lui et pour sa compagnie. Ça, c'est aussi important parce que ça nous dit comment intelligent il était et comment grand sa compagnie était. On se souvient de lui pour ses nombreux devoirs civiques, en particulier pour le président de l'occasion de les Nations Unies pour les États-Unis en 1958. La McDonald Aircraft Corps a été la première organisation au monde de célébrer la Journée des Nations Unies comme un jour férié payé. J'ai aussi pensé que ça, c'était tellement intéressant et je dois partager avec vous. Il était avec McDonald Aircraft Corps 1939 à 1967 comme le président, 1939 à 1962, président directeur général, 1962 à 1967, McDonnell Douglas Corp, 1967 à 1980, président directeur général, 1967 à 1972, président du conseil d'administration, et encore 1962 à 1980, le président du conseil d'administration Douglas Corp. Il est né le 9 avril 1999, comme j'ai déjà dit, et il a mouru le 22 août 1980. Sa compagnie était l'une des plus grandes compagnies aéronautiques au monde pendant sa vie et après sa vie. Il a lui fondé en 1939, comme j'ai déjà dit, et s'est aussi cité à Boeing en 2002. Elle possède de nombreux sièges sociaux, mais le siège principal se trouve au Berkeley, Missouri, aux États-Unis. Dans les mots plus simples, il a joint force avec Boeing en 2002. Cette société emploie plus de 68 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires estimé à environ 30,791 milliards de dollars. La société apprend désormais une société appelée le Boeing Company qui représente 45% des revenus. L'aircraft militaire Boeing est responsable des avions de combat, des transporteurs aériens, des traverses aériennes, des hélicoptères aériens et des systèmes de guerre aérotropiques. Ils sont toujours en service à ce jour et sont de loin la meilleure compagnie aérienne dans les États-Unis. La deuxième personne que je voudrais parler à propos d'eux est Robert Hanneman. Robert était un pilote de chasseurs américain le plus célèbre pour ses fonctions dans la guerre du Golfe. Même le président des États-Unis d'Amérique sait à propos de lui. Le président des États-Unis d'Amérique autorise par l'acte du Congrès du 9 juillet 1918 prendre place à présenter le Silver Star au premier lieutenant Robert W. Hanneman de l'États-Unis Air Force. Pour vavour dans le cadre d'une opération militaire contre les ennemis armés des États-Unis alors qu'il peut piloter d'un avion F-15C de le 53e escadron de chasse tactique, le 36e escadron de chasseurs tactiques en action de dessus en Bagdad, en Irak, le 6 février 1991. Ça, c'est tout important parce que ça dit qu'il était un des plus célèbres et plus bons pilotes dans les guerres du Golfe et il a eu un vraiment bon impact sur la guerre du Golfe. Robert est né en 1931 et décédé en 1995 dans Kentucky à 63 années. Il est entré dans l'histoire comme l'un des meilleurs pilotes de chasseurs de guerre du Golfe et souvent toujours ses actes courageux dans les batailles auxquelles il a participé. Ça veut dire qu'il était un héros dans la guerre du Golfe et il a fait beaucoup d'actions héroïques et changé comment ils ont utilisé des avions F-15. La troisième personne est César Rodriguez Jr. César est un colonel au 6 dans le US Air Force entre 1981 et 2006. Il a participé à 6 batailles et était un des nombreux pilotes de chasseurs F-15 désormais. Les batailles dans lesquelles il a participé étaient les guerres froides entre 1981 et 1991, l'invasion du Panama en 1989, la guerre du Golfe Persien en 1991 et Kosovo en 1999, la guerre contre les terroristes en 2001, entre 2001 et 2006, la guerre en Irak en 2003. Ça veut dire qu'il était un pilote avec tellement d'expérience et était un des plus bons pilotes dans toutes ces guerres qu'il était dedans. Ça nous disons qu'il était un des plus bons pilotes de sa temps, il était aidé beaucoup de personnes et était un héros. J'ai aussi pensé que c'était des intéressants facts pour vous partager. César était un as du vol pour l'armée de l'air des États-Unis et était un meilleur pilote de l'armée de l'air. César était né le 22 mars 1959 en Guaynabo, Puerto Rico. Il a commandé le 2e lieutenant dans le cadre du programme ROTC de l'armée de l'air le 16 mai 1981 et était un allié en service actif à participer du 29 octobre 1981. Il a pris sa retraite de l'armée de l'air le 30 novembre 2006. Pendant son temps dans l'armée de l'air, il était avec l'aide du combattant tactique 33. Pendant son temps dans l'armée de l'air, il a remporté 3 victoires au combat de Opatun, le surnom de Rico. J'ai aussi pensé que c'était une intéressante chose pour vous partager. Il a également obtenu le prix Distinguished Flying Cross pendant son temps dans l'armée de l'air. Il est toujours en vie aujourd'hui et pris le retrait de l'année de l'air depuis 2006, comme j'ai déjà dit. Comme j'ai dit, il était né le 22 mars 1959, ça veut dire qu'il est 61 années d'âge aujourd'hui. Sa dernière mise en mort en fait le contre un combattant que j'ai déjà parlé tout et qui était nommé le MiG-29, un combattant slovène. Il est du 3 pilotes de l'armée de l'air américaine qui avoir remporté 3 victoires. Il est né techniquement pas classé comme un ace, mais toujours considéré comme un dans lequel il est cible la plupart des victoires du pilote de chasse américain. Ça veut dire qu'il n'était pas techniquement un ace, mais il considère lui un ace parce qu'il a eu une taille avec 3 autres pilotes pour les plus de victoires par un pilote américain. Tous deux sont connus pour leur acte héroïque et font partie des pilotes de l'armée de l'air américaine les plus célèbres de tous les temps. Je pense de tout temps il est un des plus bons pilotes dans l'armée de l'air américaine. Je pense que Elifac dit qu'il est le plus bon pilote de F-15 qui était en existence. L'importance canadienne. Le Canada n'est pas directement l'importance canadienne. Le Canada n'a pas directement le F-15 dans sa flotte, mais il l'a dans la flotte de l'Américaine parce que c'était un avion d'Américaine. Les Américains aident à défendre le Canada. Le Canada et les États-Unis sont les proches alliés. Si le Canada était en guerre, les États-Unis verront aider avec leurs forces aériennes pour aider le Canada. Grâce aux États-Unis, le Canada aurait disséminé l'un des combats, sinon le plus puissant combat et le plus dangereux de la planète Terre. Cela donnera au Canada un avantage dans le combat contre les autres pays dans l'air. Cela aiderait également le Canada à devenir ses propres combattants. Comme je l'ai toujours dit, lorsque le pays a une nouvelle meilleure façon de faire les choses et que les autres pays obtiennent ensuite l'information, ils essaieront alors de réprouver afin de pouvoir lutter contre les nouvelles technologies des autres pays. Le Canada est proche allié avec les États-Unis, qui ont l'un des armées les plus puissantes au monde, ce qui signifie qu'ils auront toujours une bonne suite pour le protéger. Le dernier avion de combat que je vais parler à propos de est le F-16 Falcon. Le F-16 Falcon a volé pour la première fois le 20 janvier 1974. Il est bon de garder à l'esprit à quel point la technologie a changé au fil des années. Le F-16 Falcon et des scouts extérieurs sur le F-15 Eagle sont toujours dans l'air aujourd'hui et sont connus pour être parmi les meilleurs chasseurs produits jamais. Ces combattants ont été tellement produits en raison qu'il fait qu'ils étaient des puissants et avancés pour leur temps. Je reviendrai davantage sur les raisons pour lesquelles ils étaient puissants dans quelques minutes. Ils recevront le nom des meilleurs combattants du temps parce que le F-15 et le F-16 sont tous deux avions combattant souvent de plusieurs rôles différents pour plusieurs armées différentes. Ça nous dit que le F-16 était aussi populaire dans les autres pays autour du monde, qui signifie que c'était un bon avion. Toutes les personnes voulaient parce que c'était tellement dangereux et tellement avancé pour ce temps, et s'il n'avait pas et il était attaqué par un, il ne va pas avoir de chance. Mais si les autres avions lui attaquent et ils ont ces avions, il a une grande chance de gagner contre eux. Parce que leur gang a perdu ratio. Il avait plusieurs rôles parce qu'ils étaient les meilleurs combattants à tous les niveaux à quel moment. Ceci est important à savoir lorsque vous comparez les combattants et voyez ce qu'il lui l'autre dans chaque catégorie. L'F-15, comme j'ai déjà dit, et le F-16 souvent l'un à côté d'autre dans les différents conflits, jouant souvent les rôles propres forcés. Ces combattants ont été faits pour être rapides et puissants dans les batailles individuelles et à des fins de défense. Tout cela à cause des armes dont on parlait plus tôt, du moteur qui lui donne tous les puissants et détails et leur mobilité. Je parlerai plus en détail de ces choses dans les prochaines minutes. Ces chasseurs ont été produits de 1973 à 2017. Puis ont été améliorés pour être plus rapides et plus puissants que les précédents ou ceux ont été produits de 2019 à aujourd'hui. Les mises en jour seront évoquées plus tard. Ça veut dire qu'ils ont modifié plus avec la technologie aujourd'hui et ils sont encore plus puissants. Ça c'est épeurant pour les pays qui leur attaquent. Mais tellement bien pour les pays qui ont les avions, qui défendent ou les pays qu'ils ont et ils attaquent. Si tu as ces avions, tu as un grand avantage. Ces combattants ont joué plusieurs rôles au Bahreïn, en Belgique, au Danemark, en Égypte, en Grèce, en Indonésie, en Israël, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pakistan, en Corée du Sud, au Portugal, au Singapour, au Taïwan, au Thaïlande, en Turquie, aux États-Unis, en des forces aériennes du Venezuela. Ça veut dire que ces avions sont tellement supérieurs que tous les pays leur veulent et beaucoup des pays les utilisent. Ça aussi, nous disons que ça a beaucoup d'impact sur les autres pays, pas juste l'Amérique. Ça aussi signifie que c'était un des plus bons avions du temps et des plus bons avions de tout le temps. C'était si populaire parce que c'était des combattants multi-rôles, bons pour la défense et pour l'attaque, un contre un ou en groupe. Ils étaient pratiquement imparables au contre un parce qu'ils étaient rapides, avaient une plateforme haute et étaient extrêmement bien équipés en air. Il était aussi un des plus mobiles avions de ce temps. Ceci, comme j'ai dit, est important à savoir car cela signifie qu'ils ont eu de confiance dans l'autre force aérienne et étaient utilisés par l'autre force aérienne. Cela nous montre qu'il était un très bon combattant que tout le monde voulait à leur côté. Cela également veut dire que la victoire sur la perte rapporte. Maintenant, plus d'informations en plus de détails. L'F-16 possède un canon Vulcan M61 interne et 11 emplacements pour le montage d'armes et d'autres équipements de mission. Ces chasseurs avaient un F-16V pour être armé d'un grand missile RAR AAM, y compris de AAM ou courte portée AIM-9 Sidewinder Magique. Il est SRAM ainsi que le AIM-7 Skyflash et AAM du moyen moteur AIM-120. Beaucoup de ces technologies étaient aussi dans le F-15, comme j'ai déjà dit en avant. Ceci les rend très puissants. Ces armes sont puissantes car elles peuvent être utilisées dans les plusieurs situations, y compris la défense contre les attaques sur la terre, les attaques aériennes, et sont idéales pour les situations individuelles ou en grand groupe. Cela en fait en peu près le combattant le plus puissant et le plus soulagé pour pouvoir même le considérer comme le roi de l'air. Ils étaient juste les combattants les plus défus et ou armés, mais aussi les plus agiles, ses capacités à effectuer les opérations bancales beaucoup plus rapidement et tout autour des avions de son temps. La conduite a devenu académie la traverse du monde. Par rapport aux autres combattants modernes, ceci est plus rapide, léger et le plus important avion de combat. Ceci est tellement important parce qu'il participe de nombreuses batailles aériennes. Si vous n'avez pas un avion agile, il va être très difficile de contre votre interface et très difficile de fabriquer des armes, donc l'avion de massivement équipé. Si vous ne pas avoir suivi le réveil du reste avec eux, vous allez le perdre. Prenons la tag par exemple. Si vous essayez quelqu'un et tu n'avais pas assez de vitesse et que tu ne pouvais rester derrière de eux et faire les virages et les sauts qu'ils font, vous ne pouvez pas lui attraper. Si vous êtes pilote de chasse, c'est pareil. Si vous ne pouvez pas attraper et ou reste loin d'eux, vous préférez perdre ou va faire abattre. Ces deux ne sont pas les bonnes situations. Ces figures étaient également extrêmement agiles et rapides pour leur taille. Je vous disais à quel point ils sont agiles et quelle vitesse ils sont. Mais j'ai pas dit et peut-être j'ai donné toi une pas bonne image dans votre esprit. Vous avez probablement pensé c'est un combattant plus petit et un démon de vitesse et peut mourir incroyablement bien. Tout ça est correct, mais c'est pas exactement un petit avion du combat. Ils ont une longueur de 49 pieds 5 pouces, une hauteur de 16 pieds et un énorme aiguille de 32 pieds 8 pouces. Probablement, c'est pas qu'est-ce que tu avais dans ta tête. Cela affecte la hauteur de l'avion, sa grâce, la capacité de continuer de pilote et les armes. C'est un avion gros qui a volé très haut entre 30 000 pieds et 40 000 pieds. Ce chasseur prend environ 9 400 livres et c'est donc raisonnement pour le F-15, mais c'est volé plus vite, plus loin et peut transporter plus d'armes. Ce qui en fait le meilleur chasseur américain jamais construit. Ou même le plus bon chasseur construit dans tout le monde. Ça, c'est une raison qu'ils sont si populaires et valent beaucoup d'argent. Comme je dis, ils valent beaucoup d'argent. Pour le F-16 A et B, ils coûtent 14,6 millions de dollars, États-Unis. Pour le F-16 C et D, 18,8 millions de dollars, États-Unis. F-16 V, ils coûtent 121,8 millions de dollars, États-Unis. Comparez cela au combattant précédent qui coûte environ 14 millions maximum et général environ 2 millions en moyenne. Je pense que ceci était une information intéressante que je voulais partager avec vous. Ça aussi donne-nous une perspective de comment bien ces avions étaient. Comme je l'ai dit, JDC était une société derrière le F-16, General Dynamics Corporation, et une société américaine d'aérotropique et de défense. General Dynamics est une société mondiale de l'aérostropique et de la défense, qui aide autour du monde aussi, pas juste dans l'Amérique. Ils faisaient des jets d'affaires et des véhicules de combat Gulfstream aux sous-marins nucléaires et aux systèmes de communication. Leur siège société est aux États-Unis à Reston en Virginie. Le fondement de l'entreprise est John Holland. Il a fondé l'entreprise le 7 février 1898. Il travaille également avec nombreuses autres entreprises. Ils sont si grands qu'ils sont l'une des plus grandes organisations au monde à ce jour. L'entreprise va pour 36 milliards de dollars américains. Il est important d'en parler car cela vous donne plus d'informations sur qui et quelle entreprise a eu cette idée qui a changé l'aviation pour toujours en faisant un chasseur qui, comme nous l'avons déjà mentionné, est presque imparable. Dans l'entreprise, il y avait beaucoup de personnes importantes. Avec des grands combattants nommés comme celui ici, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur ce combattant pour rendre bon aujourd'hui. Se parler brièvement de certaines des personnes les plus importantes et ou connues qui ont un impact direct sur ce combattant et leur succès. Première personne que je veux parler de est John Holland. John Philip Holland est un inventeur américain. Le 7 février 1899, John fonda l'entreprise qui ferait le F-16. John Holland était un célèbre inventeur et ingénieur connu principalement pour ses combattants et son invention du sous-marin. John est né le 29 février 1840 en Irlande et a décédé le 12 août 1914 dans le New Jersey. Je vous partageais ça parce que j'ai pensé que c'est juste de l'information que j'avais pensé qu'elle était très bonne pour vous partager. John était très important pour la création du F-16 car il a joué un rôle majeur dans sa création et la production de ce chasseur. Il a fondé l'entreprise qui avait ses consoles et son aide à créer la première F-16. Il a aidé avec les blueprints et la fondation pour ce. Ceci, je pense, est très important car sans cette compagnie, il n'y aurait probablement pas de F-16 qui est l'un des meilleurs combattants au monde à ce jour et donne des avantages à tous les pays qui a lu. La deuxième personne est Jim Rush. Jim était un pilote de chasseur pendant la guerre froide. Jim était un pilote du combattant F-16 très expérient et eut la chance de tester ses chasseurs. Avant que ses combattants ne soient réfléchis, Jim était en faire les tests en raison de son expérience. Ses tests étaient dans la base de Edwards Air Force. Ceci est important qu'il a aidé à assurer que c'était un chasseur bien construit qu'il sera à l'auteur de toutes les attentes. Ça c'est important parce que s'il n'y a pas de test, on ne va pas savoir si l'avion était tellement bien ou pas en avant qu'on l'utilise. La troisième personne est James Altshuler. James a été nommé chef d'équipage 5 lors de la récréation de la flotte en 1982. James était en fait le premier chef d'équipage à avoir son nom imprimé sur le chasseur. Ça c'est parce qu'il avait un grand impact sur cet combattant. Comme Jim, il a joué un rôle dans le test du combattant. Cela était également dû à ses compétences et en expérience avec les combattants similaires. Ceci est important car il savait quoi chercher et quoi faire pour ce que doit avoir les hauteurs de ses attentes. Ça veut dire qu'il sait qu'est-ce qu'il doit regarder pour, les problèmes qu'il doit regarder pour et comment réussir ses problèmes. Pour que l'avion puisse avoir le succès qu'il a aujourd'hui. La dernière personne que je voulais parler à propos est Chuck Yeager. Chuck était un général dans l'armée de l'air des États-Unis et était un développeur pour le chasseur américain. Chuck était un pilote de chasseur bien connu à cause de son nom, l'homme le plus rapide du monde, Fastest Man on Earth. Mais il n'est pas très bon pour combattre contre Usain Bolt, il est plupart bon dans ses avions dans l'air. Chuck a obtenu son nom lorsqu'il était la première personne à fléchir le mur du son dans un chasseur. Il a joué un rôle majeur dans les travaux des systèmes d'armes de F-16 aussi, pas juste la vitesse de l'avion. Ça c'est important maintenant parce que beaucoup des avions bons comme le F-16 et le F-15 et les MiG peuvent mourir du son. Ça c'est important dans les chasseurs pour qu'ils puissent être vite et c'était un grand changement dans l'aviation. Ça donnait l'avion plus d'impact dans l'air et peut être plus dangereux. Il a travaillé à eux jusqu'à sa retraite. Où elle a travaillé dans la base aérienne d'Edward, comme la plupart des autres personnes que j'ai déjà parlé de. C'était un combattant très expérient qui a volé pendant plus de 17 000 heures dans 208 types de chasseurs différents. Tu peux trouver plus à propos de ça sur le site JCY. Au cours de sa 60 années carrière, oui, 60 années, il était dans la Deuxième Guerre mondiale et a réussi 12,5 victoires. Il était l'une des raisons pour lesquelles les combattants avaient si bien réussi à cause de ses expériences de vie. Ça c'est important parce qu'il a donné une différente perspective et une perspective plus professionnelle que les autres qui sont juste les ingénieurs qui ne font pas dans l'air avec ses avions. Maintenant à l'importance canadienne. Juste comme leur frère, le F-15, ces chasseurs n'ont fait partie de la force aérienne canadienne à cause de leur coût. Ces chasseurs sont très coûteux qu'il n'est pas nécessaire pour la force aérienne canadienne. Cependant, comme le F-15, cela ne signifie pas que nous sommes pas critiques au Canada. Ils sont toujours à la disponible du Canada en raison de relations Canada-Américaines. Le Canada est un allié des Américains et se protège l'un avec les autres. Ça c'est comme on avoir le dos d'un autre. On veut aider un autre si on est dans une situation pire. Ou mauvaise. Si devrait-il avoir une attaque contre le Canada, les États-Unis seraient là pour nous aider. Ils ont des tonnes de différents types d'armées différentes en raison de leur budget militaire très gros. Ce budget est beaucoup de milliards de dollars. Tu peux voir plus sur le site des armées américaines si tu veux apprendre plus à propos de leur budget et de leurs combattants qu'ils avaient. Ces armées, ils ont des bêtes aériennes dans leur arsenal et ils seront d'emmener à disponibles au Canada lors d'une invasion. Cela affecte le Canada en nous donnant de majeures puissances aériennes et nous donnant l'un des chasseurs les meilleurs conduits à ce jour. L'Amérique veut nous aider parce que nous sommes à côté de lui et un des plus bonnes trades avec lui. Alors, si on a un effet sur nous et nous maintenant sont détruits, il va avoir un effet économique sur lui aussi. Alors, s'il a une taxe sur un des deux pays, il va avoir des conséquences pour les deux pays. Ça, c'est pourquoi nous avons le dos d'une autre. Avec toutes ces armes et des technologies et inventions, ces chasseurs apportent une aide considérable au Canada dans les domaines de l'aviation. Merci pour écouter à propos de l'importance canadienne pour tous ces avions, des personnes importantes, comment ils ont fait, pourquoi ils ont fait, leur impact sur le monde et plusieurs autres informations à propos de ces trois extrêmement importants avions dans l'air. Merci.